Il est 7h43. L'édito politique Thomas Legrand, la France demande pardon aux familles de harkis.
Emmanuel Macron suit les recommandations de l'historien Benjamin Stora pour tenter de réconcilier les mémoires de la guerre d'Algérie. Dans ce cadre, des mesures de réparation financière accompagneront ce pardon pour les descendants des harkis qui ont vécu dans des camps, ont été longtemps oubliés, ostracisés. Emmanuel Macron n'est pas le premier président à reconnaître la faute de la France, mais c'est le premier à demander pardon. Et oui, la France peut demander pardon sans perdre son âme. Au contraire, et s'agit des harkis, ça fait consensus, beaucoup moins de consensus quand Emmanuel Macron demande pardon, alors que ce sont des pardons individuels aux familles des militants indépendantistes torturés et assassinés par l'armée française, Maurice Audin ou Ali Boumendjel. Pour ces pardons partiels, pour la reconnaissance des crimes de la colonisation et l'enseignement de l'histoire factuelle, pour l'ouverture des archives militaires, une partie de la droite, mais surtout l'extrême droite, s'insurge et y voit les dérives de la repentance, la haine de soi.
L'idée du pardon, Thomas, du pardon de la France, a toujours fait polémique.
Oui, on parle de repentance, ce mot a pris une connotation détestable au fil des débats. L'Élysée tente d'ailleurs de distinguer le pardon et la repentance. L'idée s'est installée que la France s'émasculerait à mettre en lumière les ombres de son histoire, à s'excuser de ses fautes. La France, en 1995, s'est-elle affaiblie en se repentant de son rôle dans la déportation des Juifs par le régime de Vichy? Au contraire, l'honnêteté historique, sans anachronisme, et le pardon renforcent la cohésion nationale. Il faut bien trouver le moyen, il faudra bien trouver le moyen de demander pardon pour la colonisation, afin aussi de tarir la surenchère victimaire, carburant du dit séparatisme ou du communautarisme. Les présidents, depuis Jacques Chirac, ont tous eu des mots sans embâge sur les crimes, sur le crime que représente en lui-même la colonisation, mais sans jamais demander pardon, de peur que le pardon ouvre la voie à des demandes de compensation matérielle ou pour des raisons de non-réciprocité, parce que de leur côté, les autorités algériennes ne font pas leur part du travail de vérité sur une période qu'ils continuent à surexploiter politiquement afin de détourner l'attention des turpitudes de leur régime. Quand pardon au compte-gouttes il y a, c'est aussi souvent par utilité électorale. À 7 mois de la présidentielle, et puisque le président semble plutôt mis sur l'électorat de droite en mai prochain, eh bien le pardon aux 700 000 descendants des harkis est plus rentable qu'une panthéonisation de Gisèle Halimi, pourtant recommandée par Benjamin Stora, ou qu'un pardon par exemple aux familles des 150 à 200 Algériens assassinés le 17 octobre 1961. C'est bientôt la commémoration des 60 ans de ce massacre si longtemps caché. Ce pardon, le pardon global pour les 150 ans de colonisation, viendra un jour sous un autre quinquennat. Question d'honnêteté politique, ou plus sûrement, expérience de vieil éditorialiste sans plus d'illusions, plus sûrement question de calcul électoral destiné à une autre partie de la population.
Thomas Legrand.
L'édito éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Et c'est l'édito éco, Dominique Seux. Le gouvernement présentera demain le 5e et dernier projet de loi de finances du quinquennat.
Oui, c'est le budget pour 2022 avec l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État. Et ce rendez-vous annuel est normalement le moment où se discute la politique économique du pays. Mais cette année, et encore plus que les précédentes, cet événement ne recevra pas une publicité considérable. Demain, on parlera certainement bien davantage du Conseil de défense qui allégera les contraintes sanitaires dans certains départements. Si Emmanuel Macron avait vraiment voulu que le budget soit un moment important de la rentrée, il aurait naturellement déplacé le Conseil de défense. Eh bien, ça n'est pas le cas parce que, un, les questions de finances publiques ont toujours, je crois, ennuyé le président. Et deux, parce que la copie 2022 est en réalité bien embarrassante. La croissance de l'an prochain est espérée à 4%, ça c'est positif. Mais comme souvent en année électorale, le robinet à dépenses est grand ouvert en dépit des efforts de Bruno Le Maire à Bercy pour le visser un peu. Chaque jour en ce moment, de nouvelles enveloppes sont annoncées. Plan pour Marseille, Beauvau de la sécurité, chèque énergie, mesures pour les travailleurs indépendants, bientôt le revenu pour les jeunes et un plan d'investissement et j'en passe. C'est au point que les experts du Haut Conseil des Finances Publiques, dans leur traditionnel avis, affichent leur mécontentement. Pas autant qu'en 2016, quand ils avaient jugé insincère le dernier budget de François Hollande. C'est un chouïa moins sévère, mais bon, tout de même.
Et sur les impôts, Dominique?
Écoutez, c'est le même embarras, Nicolas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le gouvernement fait peu de publicité sur les allègements fiscaux de son budget, et cela paraît étrange. Normalement, c'est roulement de tambour et trompette. La raison? Et on est qu'en 2022, ce sont les 20% les plus aisés des Français qui auront droit à la suppression du deuxième tiers de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale. A priori, ça n'est pas facile à vendre quand la dette publique flambe et dans un pays obsessionnel sur les inégalités, ou en tout cas qui en parle matin, midi et soir. Et bien pourtant, Il n'y a pas de honte à diminuer la pression fiscale de ces Français-là, coincés entre les moins aisés, dont les impôts ont baissé, et les très aisés, qui ne paient plus l'ISF, en tout cas pour certains. Ce sont eux, ces 20%, qui payent le gros, le très gros, de l'impôt sur le revenu sans rechigner. Il n'y a pas de raison de les oublier.
Dominique, merci.